Interview.
107.5 FM et internet www.rdwa.fr. Toujours depuis la Baume et cette invitation qu'on a reçue par l'association L'Oreille, en compagnie de Jean-Philippe Salé. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'association Aubuèche Nature.
C'est ça, oui. C'est une association qui s'est créée il y a presque 10 ans maintenant, quand les habitants du secteur, des villages alentours, ont appris qu'un promoteur éolien canadien, Boralex, voulait monter 9 éoliennes sur la montagne qui est juste en face de...
Qui s'appelle L'Oreille.
Qui s'appelle la montagne d'Oreille, voilà. Et donc, ayant appris ça, on a essayé d'en savoir un peu plus, parce qu'a priori, les éoliennes, bon, nous, on n'avait rien contre. On a essayé de comprendre de quoi il s'agissait, et puis, quand on a compris, on a créé une association pour lutter contre.
Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel... circonstances, elle pourrait être implantée sur quel type de terrain, comment un projet comme ça naît et pourquoi là?
Alors pourquoi là? Parce que les promoteurs éoliens ont des services commerciaux qui savent bien faire, donc ils visitent les petits villages de la France profonde avec le carnet de chèques en bandoulière et ils proposent aux toutes petites communes de venir implanter des éoliennes moyennant
un chèque.
Voilà. Alors il y a un chèque avant, ça c'est pas officiel, et puis il y a surtout un chèque après, puisque ces promoteurs éoliens louent à travers un bail emphytéotique des parcelles communales, souvent, ça peut être des parcelles privées parfois, et donc installent des éoliennes. Donc pour une petite commune comme la nôtre, qui est la Haute-Baume, donc qui est une commune où il y a 10 habitants.
Alors la Baume et la Haute-Baume sont...
Ah, c'est pas les mêmes communes, voilà. Non, parce que ici les élus ont toujours refusé de fusionner, vous comprenez, parce que... Bon. Voilà, donc nous on a une commune avec un maire, deux adjoints, des conseillers municipaux, etc. Pas de budget, parce qu'une commune de 10 habitants, à peine, on a très peu de budget, donc... L'apparition d'un promoteur éolien, c'est le jackpot absolu, puisque ça permet de pratiquement doubler son budget communal
en
ne faisant rien, ouais. Annuellement, oui, ouais. Tout à fait. Ouais.
Ouais. Pourquoi à cet endroit-là, il y a vraiment du vent, c'est cohérent aussi
Non, il n'y a pas plus de vent qu'ailleurs, et surtout il y a du vent qui n'est pas très adapté aux éoliennes, parce que c'est du vent en bourrasque. Vous savez, ce qui convient bien aux éoliennes, c'est du vent laminaire, comme il y a en mer, qui tourne en permanence. Ici, on a des effets de bourrasque, comme ce régime des vents, souvent en montagne. Mais peu importe.
Mais du coup, on ne comprend même pas le sens, alors. Enfin, si peu importe, quand même, non ?
Le sens, c'est que depuis 20 ans, le gouvernement français a décidé de modifier sa politique de production électrique. En clair, à terme, supprimer le nucléaire. Pour supprimer le nucléaire, eh ben, il faut d'autres sources d'énergie. L'hydroélectricité ne suffit naturellement pas. Donc, ils se sont abattus sur l'éolien et le solaire. Voilà. Et donc, depuis pas mal d'années, il y a eu dans un premier temps ce qu'on appelait des schémas régionaux éoliens, où chaque région devait programmer l'installation d'un certain nombre d'éoliennes. Et nous, ici, comme on est, comme vous pouvez constater, un peu au fin fond de nulle part, ici, on a nos élus nous appellent la réserve d'Indiens. Le schéma régional éolien avait prévu d'installer un peu plus d'une centaine d'éoliennes, partant du principe que de toute façon, il n'y a pas grand monde, ça va gêner personne. Et puis ça permettra d'envoyer de l'électricité sur la Côte d'Azur ou dans le Luberon. Parce que là, on ne va pas en mettre, parce que c'est là où nos gouvernants ont leur résidence secondaire.
Alors donc, si on veut comprendre la logique, c'est-à-dire en mettre tellement ici que ça finirait quand même par produire un peu. Parce que si je reviens sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de vent, C'est plus ça que j'essaie de comprendre. Oui. Ça, il vaudrait mieux effectivement les mettre en mer, quoi.
Oui, enfin bon, les mettre en mer, c'est pour un promoteur, c'est pas le même coût. Déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Si vous voulez, c'était ici le Buëch, c'était à l'époque le plus gros producteur d'énergie éolienne de Tupaca. Voilà. Il y avait quelques spots comme ça, une dizaine de spots sur toute la région PACA qui avaient été identifiés. Et donc nous, on avait droit à avoir entre 100 et 120 éoliennes. Et c'est pas parce qu'il y a 100 éoliennes que ça produit. Parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent pour 10 éoliennes, mais il n'y en a pas pour 100 non plus. Voilà. Il faut savoir qu'une éolienne, ça tourne en moyenne un jour sur 5. Ce qu'on appelle le taux de charge d'une éolienne, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'elle produit vraiment et sa puissance installée, c'est entre 20 et 23%. Quoi. Donc c'est grosso modo un cinquième, à peu près.
Et contrairement au nucléaire, ça ne tourne pas tout le temps. Donc du coup, bah, tout d'un coup, quand il y a vachement de vent, tout le monde produit. Ça doit faire des pics de production.
Voilà, alors, quand il y a beaucoup de vent, c'est ce qui s'est passé en début d'année. Quand il y a beaucoup de vent, ça produit, parce que maintenant il y a presque 9000 éoliennes installées en France. Pendant le confinement, notre ancienne ministre Elisabeth Borne a fait voter ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans laquelle on double le nombre d'éoliennes. Donc dans les 10 ans à venir, normalement, on devrait avoir à peu près 16 000 éoliennes en France. Et ce qui s'est passé en début d'année, c'est que en février-mars, on a eu un peu plus de vent que d'habitude. Et puis, c'est tombé en pleine période du coronavirus.
Donc, on ne l'a consommé même pas, quoi.
Donc, on ne l'a consommé pas. Donc, on ne savait pas quoi en faire. Donc, on l'a vendu à un prix négatif. C'est-à-dire qu'on payait des industriels pour se défaire de l'électricité. Et ce qui est très pervers, c'est que l'industrie éolienne, comme l'industrie photovoltaïque d'ailleurs, ne fonctionne qu'avec des tarifs subventionnés. C'est-à-dire que, en moyenne, sur l'année 2020, le mégawattheure éolien revient à 91 euros le mégawattheure.
Donc le mégawattheure éolien est acheté et racheté plus cher par le réseau ?
Il est racheté plus cher par EDF. Qui, lui, doit s'en défaire, comme il veut, sur le marché européen, quand il y a de la place, mais il n'y a pas de place, ou, limite, il faut s'en défaire. Quoi.
Voilà. Du coup, EDF est en train de s'endetter
Mais EDF est en faillite. Ouais. EDF est en faillite. C'est une... Alors, c'est très pervers, parce que c'est une volonté des gouvernements successifs, c'est de privatiser, en fait, l'énergie en France. L'année prochaine, le tarif réglementé d'électricité va tomber. Donc chacun pourra faire ce qu'il veut. Et il y a vraiment une vraie volonté de privatiser l'énergie électrique. Voilà. L'Europe considère que l'électricité, c'est une marchandise comme une autre. Donc il n'y a pas de raison que EDF ait le monopole comme elle l'avait au sortir de la Libération, et où EDF a construit vraiment le réseau électrique français avec... une option qui a été prise à l'époque sous le général de Gaulle, qui était l'énergie nucléaire, dont on peut dire ce qu'on veut. Est-ce que c'est la panacée? Sans doute pas. Mais actuellement, c'est la seule solution pour avoir une électricité permanente, pas chère, avec des avantages, bien entendu avec des inconvénients. Mais c'est certainement pas l'éolien qui va remplacer actuellement le nucléaire. Le nucléaire... je regardais avant de venir ici les statistiques. À 13h aujourd'hui, le nucléaire produisait 70% de l'électricité en France. L'hydroélectricité à peu près 13%. L'éolien produisait 5%. Voilà. Et comme on n'avait pas assez d'électricité, on devait importer de l'électricité. On l'importe de où ? Bien souvent d'Allemagne.
Et là, c'est du charbon.
Et c'est du charbon. Ouais, c'est d'électricité au charbon. Pâle, c'est d'électricité au charbon. Donc, si vous voulez, c'est un peu, le serpent qui se mord à la queue. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, personne ne peut être contre l'énergie éolienne. Le vent, c'est une énergie. Le soleil, c'est une énergie. Mais quand vous démontez tout le système, vous apercevez que c'est pour appeler un chat, une vaste escroquerie financière qui permet à...
Qui fait même pas progresser le...
Ah non, non, qui est en train de faire exploser notre système énergétique national, qui nous donne notre indépendance, et qui enrichit, on va dire, une dizaine d'entreprises principalement étrangères, danoises, allemandes, espagnoles et chinoises, puisque les éoliennes sont malheureusement construites en Chine pour la plus grosse partie de leurs composants.
Ou canadienne dans le cas ici. Alors Jean-Philippe Robèche Nature, à quel moment vous dites, bon, là, on rentre dans la lutte, est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là, et vous êtes renseigné, après ça a grossi, est-ce que c'était esthétique, bruyant, écologique, pour la sauvegarde de la biodiversité? Enfin, il y a plein de raisons qui...
Bah, écoutez, voyez dans quel environnement on est.
Ouais.
Imaginez-vous que là, juste derrière ce bouquet d'arbres, vous avez 6 éoliennes qui font 200 mètres de haut, dans une zone qui est destinée, alors, qui est boisée en partie et destinée au pâturage, avec des petits chemins forestiers où il y a des randonnées pédestres, où il y a un tourisme et un agrotourisme diffus, si vous voulez. Il y a plein de gîtes tout autour. Donc c'est une façon... de, entre guillemets, de consommer la nature, mais de la consommer, je dirais, de manière, on va dire, écologique.
Douce.
Et vous avez, à un moment donné, un site qui se crée, qui est un site industriel, avec un impact très fort sur la nature. Cet impact, c'est quoi? C'est notamment en termes faunistiques, où c'est la destruction de 2 espèces protégées. C'est le vautour moine et le gypaète barbu, vautour qui est en cours de réintroduction dans la Drôme, et le vautour moine qui est une espèce qui est très protégée. Et globalement, sur l'ensemble du territoire où les éoliennes devraient s'implanter, c'est 30 espèces faune et flore qui sont impactées. Voilà. Donc, ce qui a amené le promoteur canadien Boralex à faire une demande de destruction d'espèces protégées.
Et
oui.
Comment ça?
Eh ben, dans la loi sur l'environnement, à un moment donné, quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre issue que de détruire des espèces, le promoteur doit faire, or c'est un certificat CERFA, c'est très administratif, il fait une déclaration de destruction d'espèces protégées. Voilà.
Bon, et on dit oui.
Et le préfet peut dire oui. Il s'avère que dans notre dossier, le préfet a dit non. Il a dit non en octobre 2018, après presque 10 ans d'instruction du dossier, etc., etc. Et Boralex s'est pas démonté. Boralex a dit non, non, mais moi je veux faire mon projet, donc j'attaque l'arrêté préfectoral. Et après 2 ans de tergiversation judiciaire, nous sommes en cours d'appel contre la société Boralex, nous association OBH Nature, et nous sommes, je dirais, en renfort du ministère de l'écologie qui a refusé le projet via la préfecture. Mais tout ça, ce n'est que de la façade, parce que, entre-temps, le législateur, voyant que toutes les associations maintenant qui luttent contre l'éolien, tout ça, ça se termine en procès. Pour les promoteurs, ça dure beaucoup trop longtemps. Donc, ils ont trouvé des moyens pour couper court. Un décret du 8 avril 2020...
Quelle drôle de période.
Oui, mais tout s'est fait pendant la période du confinement et juste avant le départ de la ministre Borne, qui a changé de ministère. Donc, pendant le confinement... Tout s'est fait en catimini. Donc un nouveau décret du 8 avril permet au préfet de déroger à la réglementation sur l'environnement pour des raisons d'intérêt local, d'intérêt général, etc. Donc ce qu'a fait Boralex, c'est qu'ils ont refait une étude d'impact dont nous n'avons pas connaissance. Mais on pense que cette étude d'impact va leur être beaucoup plus favorable. Ils vont redéposer un dossier en préfecture. Et après, ce qu'on ne sait pas, c'est si le préfet
va dire non,
va être aux ordres ou va maintenir sa position en disant non, c'est pas possible, vous pouvez pas détruire une trentaine d'espèces sur la montagne d'oreilles. Voilà, c'est ce qu'on ne sait pas actuellement. Rendez-vous sans doute au mois de septembre, entre septembre et décembre 2020, si le procès a lieu. Mais il est possible que Boralex se dessaisisse de sa plainte et essaye de passer en catimini avec une autorisation par dérogation du préfet. Voilà.
Puisque la Drôme a été citée avec ses gypaètes et ses vautours, le parc naturel régional du Vercors met un fric monstre dans cette opération. Est-ce que autour, là, il y a d'autres acteurs qui s'en saisiraient, même en dehors du département des Hautes-Alpes?
Alors nous, on a été bien aidés par un certain nombre d'associations. Alors je dirais des associations locales, la Ligue de protection des oiseaux, pour ne pas la nommer, Vautour en Baronnie, pour ne pas les nommer.
Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, voilà, j'en pourrais préciser, vous êtes entre le Vercors et les Baronnies,
oui.
Et ces vautours s'échangent beaucoup.
Oui, c'est ce qui paraît logique de dire, ouais. Mais pour... Pour les gens qui font les études d'impact, non. Non, non. Les gens, ils restent dans leur département.
Voilà,
ils voient Hautes-Alpes et disent non, 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 là, j'y vais pas, je reste dans la Drôme.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que nous disent les études d'impact. Vous voyez, enfin, c'est hallucinant, mais bon, ça marche, hein, ça marche. Donc, on a bien été aidé par un certain nombre d'associations, je dirais, locales, départementales, voire régionales, sachant que le gros problème qu'on a et qu'on toutes les associations qui luttent un peu contre l'éolien industriel, c'est qu'au niveau national, vous avez les poids lourds des associations, des ONG, style Greenpeace, WWF, même la LPO au niveau national, qui sont peu ou prou pro-éolien, voilà. Notamment parce qu'ils touchent des subventions de ces gens-là. Voilà, quand Boralex est venu nous présenter le projet en mairie de la Baume, il y a 3 ans de ça, la première personne qui a pris la parole à la demande de Boralex, c'était la représentante de WWF. Voilà. Donc c'est très amusant quand on voit que, en fait, le projet, pour l'instant, il est interdit du fait de destruction d'espèces protégées. Et on n'a pas compris pourquoi c'était une personne du WWF qui intervenait. Et puis on a cherché, et puis on a vu que WWF était subventionné par Boralex.
Mais ça, c'est pas possible de les confondre sur le moment.
Si, moi, en réunion publique, j'aurais dit, mais attendez, vous êtes subventionné par Boralex, donc vous êtes quand même un peu malvenu de venir défendre le projet Boralex ici. Mais ça, non, ça, pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Vous prenez à l'échelon national, voire international, une ONG comme Greenpeace. Greenpeace est un opérateur éolien en Allemagne. Voilà. Donc,
vous étiez écologiste avant et adhérent parfois de ces organismes.
Ah oui, mais moi je vais vous dire, je commence à être un vieux machin et quand j'étais un peu plus jeune, je luttais à mort contre les centrales nucléaires, etc., en me disant c'est pas possible, etc. Et ce qu'on dit, c'est que on n'est pas en train de défendre le nucléaire par rapport à d'autres systèmes. Ce qu'on dit simplement, c'est que ce système de l'éolien industriel terrestre, parce que comme vous disiez fort justement tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer de l'éolien offshore, mais vraiment en haute mer, qui bénéficierait de vents beaucoup plus favorables, donc ce qui permettrait aux éoliennes de tourner en permanence, et avec cette électricité produite gratuite, entre guillemets, enfin, l'électricité n'est jamais gratuite, mais on pourrait par exemple produire de l'hydrogène par électrolyse, on pourrait peut-être dessaler de l'eau de mer, parce que comme vous le savez, le problème de l'eau va être un problème crucial dans les décennies qui viennent. Donc nous, on n'est pas anti-éolien pour être anti-éolien, on dit que l'éolien industriel terrestre tel qu'il nous est présenté, c'est la fausse bonne idée du siècle. C'est un effet d'aubaine où des industriels se sont emparés d'un sujet qui est le changement climatique. Et à partir de ça, ils ont construit un modèle très bien marketé changement climatique, donc transition écologique, donc éolienne. Alors que, comme vous le savez, par exemple, actuellement, enfin, en France, le nucléaire produit moins de CO2 que les éoliennes. Le bilan carbone d'une éolienne est beaucoup plus mauvais que le nucléaire. Ne serait-ce que parce qu'une centrale nucléaire, ça dure entre 40 et 60 ans. Et une éolienne, ça dure une quinzaine d'années. Qu'elle est fabriquée en Chine, qu'elle est composée de terres rares qui sont exploitées en Chine. Donc, si vous voulez, on a fait de l'éolien industriel un totem écologique. Et nous, ce qu'on dit, c'est que non, c'est vraiment une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que ça détruit notre environnement, ça détruit la biodiversité, ça produit pratiquement rien. C'est en train de foutre en l'air, pardonnez-moi l'expression, un système de production électrique qui a quand même permis à la France d'être de se relever après-guerre. Ça met en cause notre indépendance énergétique. Parce que demain, si on n'a plus de nucléaire et qu'on n'a que des éoliennes, ben, il faudra soit aller chercher l'électricité chez nos amis allemands, l'électricité au lignite et au charbon, soit construire des centrales au gaz. C'est ce qui est en train de se passer en France d'ailleurs. Ça se sait peut-être pas forcément, mais par exemple à Landivisiau, en Bretagne, vous avez la construction de la plus grosse centrale au gaz de France. Parce qu'à un moment donné, il va bien, si on arrête le nucléaire et s'il n'y a pas de vent ou pas beaucoup de soleil, il va bien falloir produire de l'électricité, quoi. Donc on est dans un système qui ne tient pas la route, je dirais, en termes de réflexion énergétique et technique.
Bon, le nucléaire, c'est quand même pas non plus la panacée. Hein, on le répète parce qu'évidemment, voilà. C'est puis c'est au dépend d'un certain nombre de pays. Il y a encore des politiques coloniales qui sont liées aussi, oui, l'uranium, oui, tout oui, ça. Bon, bref.
Mais il faudra en sortir un jour ou l'autre. C'est sûr. Il faudra en sortir un jour ou l'autre. Mais pour les 10 ans ou 15 ans qui viennent, au lieu de donner de l'argent à des promoteurs éoliens étrangers, il vaut mieux investir à fond sur d'autres moyens de production
de la
énergétique
recherche,
voilà.
C'était la question que je voulais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que justement, cette transition énergétique doit être en même temps accompagnée d'une bifurcation sur la recherche? Essayer de rechercher des nouvelles manières de produire, peut-être des éoliennes plus efficaces, je sais que ça existe là, plus thermiques, plus basses, et peut-être carrément d'autres supports
à
inventer
Oui, enfin bon... Le problème de l'hydrogène qui est en train de ressortir actuellement avait été mis complètement sous l'été noir par l'ancien gouvernement, puisque à un moment donné, on devait y accorder 500 millions au titre de la recherche et la PPE ne proposait que 100 millions. Alors finalement, maintenant, ils sont en train de faire un petit peu marche arrière et de se dire non, il faut qu'on investisse beaucoup plus là-dedans. Il faut investir aussi. Et ça, c'est le débat citoyen qui l'a montré. Il faut investir énormément sur les passoires thermiques parce que...
Refaire tous les bâtiments.
Il faut refaire tous les bâtiments. Enfin, une grande partie des bâtiments à usage locatif, mais aussi les bâtiments publics. Il y a un chantier énorme. Et là, c'est intéressant. Parce que là encore, au lieu de donner de l'argent à des promoteurs éoliens, il vaut mieux donner de l'argent à un tissu économique local de rénovation des bâtiments, parce que ça, c'est de la main-d'œuvre qui n'est pas délocalisable, et parce que c'est du long terme. Si vous voulez, il y a un faux débat qui s'est installé en France, à savoir qu'on a dit le problème des émissions de CO2, c'est lié à la production électrique, ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est que la production électrique ne rentre que pour à peine 25% de l'énergie totale consommée en France. Les plus gros secteurs où on consomme de l'énergie, c'est le transport et le bâtiment. Donc attaquons-nous déjà au transport, que ce soit le transport terrestre, le transport maritime, le transport aérien, qui sont des gros consommateurs d'énergie fossile et donc de très gros émetteurs de CO2. Quand on aura fait ça, on peut aussi s'attaquer aux bâtiments, on en a parlé. Et il restera peut-être après 25% du problème énergétique auquel il faudra s'attaquer, mais dans ces 25% du problème énergétique, qui est la production électrique, 95% est déjà décarboné, grâce à l'hydraulique, grâce au nucléaire. Donc on sait que d'ici 10 ans, il va falloir sans doute revoir notre politique nucléaire. Mais actuellement, c'est pas la priorité des priorités. Par contre, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on dépense un fric fou pour subventionner l'éolien industriel qui ne produit rien. Je m'occupe pour la Fédération Environnement Durable, qui regroupe à peu près 1500 associations nationales, je m'occupe du suivi des subventions de l'éolien. Et je compare tous les mois ce que produit l'éolien, à quel prix UDF est obligé de l'acheter, c'est-à-dire 91 euros en moyenne le mégawattheure, et ce que EDF arrive à revendre sur le marché. À fin juin, l'éolien industriel avait, par ce mécanisme, qui est complètement ubuesque, avait récupéré 1,4 milliard. Voilà. Ici, on va rentrer dans une période anticyclonique, donc on va avoir très peu de vent. Je vous dis, aujourd'hui, on était obligé d'importer l'électricité. Donc ça ne va que s'aggraver. Et quand vous voyez que notre problème actuellement, c'est trouver des sous pour la santé, trouver des sous pour essayer de redresser comme on peut notre économie et éviter trop de faillites, on se dit que bon, on n'a pas trop d'argent à mettre en l'air pour subventionner des entreprises comme Boralex au Canada. Voilà.
Et par ailleurs, est-ce qu'il serait saugrenu de penser que si EDF est à ce point ruinée, elle ne puisse plus entretenir les centrales dont elle a encore pour faire le lien avec le nucléaire, dont elle a la gestion?
Alors, EDF est en sursis. Il y a un projet qui s'appelle le projet Hercule, qui est un projet qui vise à casser EDF en deux. La partie, on va dire, commerciale et un tout petit peu rentable d'EDF, parce que EDF fait aussi de l'éolien, hein, ça va être privatisé. Et ce qui va rester... je dirais à la charge et qu'on ne pourra pas rentabiliser, puisqu'on ne fait plus de recherche et on ne fait plus de développement. Donc il va falloir accompagner les centrales encore pendant une dizaine d'années. Donc ça va rester obligé de l'État et ça va être un peu comme ils avaient fait avec le Crédit Lyonnais, vous savez, une structure qui petit à petit va coûter beaucoup d'argent, mais qu'on va laisser à l'abandon. Voilà. Le but, c'est de privatiser l'énergie.
Dans l'idée de les démonter, enfin, ou de les laisser s'arrêter.
Oui, parce que c'est un peu l'Europe, mais pas que, qui veut ça. Hein, c'est qu'on est dans un régime d'économie libérale et où le grand mot, c'est la concurrence. Donc c'est ce qui se passe à la SNCF, hein, dans les transports, c'est ce qui se passe dans les télécommunications, c'est ce qui se passe partout. On est à un tel point, si vous voulez, qui devient... incompréhensible, c'est que si ça continue, par exemple à SNCF, on va privatiser d'un côté rail droit et de l'autre côté rail gauche, quoi, parce que entre les trains qui circulent, la voie ferrée, les gares et les infrastructures, etc., c'est une myriade de sociétés où chacun peut tirer les marrons du feu. Je vous donne un autre exemple au niveau de l'énergie. Alors, il y a un truc qui est hallucinant. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de producteurs d'énergie privée, Total Energy, Engie, voilà, et des gens qui vous disent, venez chez nous, on vous vend de l'électricité verte. Et vous savez d'où elle vient, cette électricité verte?
Et ils l'achètent à d'autres, non? C'est pas ça?
Ils l'achètent à EDF.
Ouais.
Ils achètent en fait de l'électricité nucléaire à EDF. EDF a une obligation de vente de son énergie nucléaire à ses entreprises privées, qui leur vend à 42 euros le mégawatt. Ça, c'est le mécanisme de l'AREN. Voilà, c'est un mécanisme qui oblige EDF à vendre une bonne partie de sa production à ses producteurs privés. Et les 10 producteurs privés qui vont faire un mix 10% d'électricité, on va dire, verte, et puis 90% de nucléaire, et qui vont vous dire, ben voilà, à EDF, vous payez votre kilowattheure, vous payez tant d'euros, ben moi je vous fais 10% moins cher, parce que c'est de l'électricité verte. Voilà. Il y a même un projet de loi maintenant qui vise à suspendre ce mécanisme, parce que c'est un mécanisme de fou. Quoi. C'est un mécanisme de fou. On en est là. On a confondu au niveau européen une certaine solidarité qu'on aurait pu avoir en termes de production, puisque les réseaux maintenant sont interconnectés, avec l'introduction d'une fausse concurrence, et où des entreprises très très bien organisées, mondialisées, tirent les marrons du feu. Et moi, je me souviendrai tout le temps du directeur général Europe de Boralex, qui était venu nous présenter son projet, et il disait, c'était même passé sur FR3, pour nous, l'éolien en France, c'est un effet d'aubaine. On est là que parce qu'il y a un tarif d'obligation d'achat qui fait que... bon an mal an, on gagne beaucoup d'argent.
C'est ce mécanisme qui est incroyable, quoi, de forcer EDF à racheter, à revendre moins cher, enfin bon, de toute façon, à perdre de l'argent à chaque opération.
Il y a d'un côté un système très étatisé qui oblige EDF à racheter à prix fixe une production industrielle, c'est d'électricité, mais c'est une production industrielle, et de l'autre côté, la loi du marché, avec l'offre et la demande, qui fait que dans des années comme cette année 2020, avec l'effondrement des économies européennes et du monde entier, il y a une chute de la demande électrique, et donc on produit l'électricité pour rien. Et au lieu de se dire intelligemment, si l'État encore aurait pu agir en disant « bon, on a trop d'électricité », on ne peut pas arrêter une centrale nucléaire comme ça en appuyant sur un interrupteur. Par contre, on peut arrêter les éoliennes. Mais ça, ils ne l'ont pas fait. Donc, on a continué à produire en masse de l'éolien. L'éolien, ils ont une priorité d'accès sur les réseaux avant le nucléaire. Donc, on s'est retrouvé avec un stock d'électricité dont on ne savait pas quoi faire. Et on a abouti à un système où on vend à perte de l'électricité. Voilà.
Jean-Philippe, à la Haute-Baume, du coup, est-ce qu'en 10 ans, ça a évolué ? Il y a eu quand même des changements de municipalités potentielles. Est-ce qu'il y a eu un regret ? Ou est-ce qu'on continue à penser que c'est la bonne idée ?
Non, il n'y a pas eu changement de majorité, parce que chez nous, c'est très fermé. C'est un clan familial qui tient la mairie depuis des décennies. Donc nous sommes les vilains petits canards. Oui. Qui les empêchons de gagner beaucoup d'argent.
Néo-ruraux en plus, non ?
Oui, enfin moi, ça fait 30 ans que je suis ici, mais bon, voilà. Non, ça n'a rien changé. Les élus locaux, alors ça peut se comprendre aussi, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes maire d'une petite commune, que vous voyez votre dotation de l'État qui stagne ou qui diminue, et vous dites, ben, comment je fais pour gagner de l'argent, quoi, hein, comment je fais pour équilibrer mon budget. Donc là, vous avez quand un promoteur arrive en disant, ben, moi nous notre projet, il est sur deux communes, Montbran et la Haute-Baume, donc chacune trois éoliennes sur des parcelles communales. Chaque parcelle communale est louée, à l'époque c'était 7000 euros par an. Donc vous voyez, une petite commune comme la Haute-Baume, c'est 21 000 euros qui rentre de location de parcelles, plus la péréquation avec la communauté de communes sur ce qui était avant la taxe sur le chiffre d'affaires. Donc, une petite commune comme la Haute-Baume, qui a 32 000 euros de budget par an, qui est ridicule, si vous avez quelqu'un qui vous dit, bah, louez-moi trois lopins de terre et je vous double votre budget, voilà. Et ils font ça partout, hein. Dans toutes les communes, c'est comme ça que ça se passe.
Alors cette association a commencé là-haut, mais si vous êtes les vilains petits canards, il a fallu rassembler du monde autour. Alors qui s'est intéressé, qui adhère pour vous, qui vous aide à payer tous ces avocats, voilà, un peu de vie associative maintenant.
Alors, juste pour préciser que nous ne sommes pas subventionnés. Donc, c'est les adhérents qui payent de leur poche les frais, notamment les frais de justice. Qui sont nos adhérents? Ben, ce sont les habitants de toutes les communes avoisinantes, hein, puisque les éoliennes sont là, surplombent diverses communes, donc la Haute-Baume, bien sûr, la Baume, Saint-Pierre d'Argençon, Aspremont, Aspres, voilà. Et qui plus est, comme je vous ai dit en début d'interview, que le projet était d'installer une centaine d'éoliennes sur tout ce territoire du Buëch. En fait, il y avait un grand projet qui existe toujours dans les cartons, mais pour l'instant, il est un peu en stand-by, et qui est une grande dorsale d'éoliennes qui partirait du col de Luz, Luz-la-Croix-Haute. Donc, sur la commune de Saint-Julien-en-Beauchesne, il y avait un projet aussi d'une dizaine d'éoliennes, et qui descendrait jusque la montagne de Lure, au sud de Sisteron, et donc on aurait une centaine d'éoliennes. Alors, il y avait différents projets dans différentes communes. Donc on s'est quand même tous retrouvés un peu sur cette problématique.
Une muraille de Chine dans le 04.
Bah, le principe de l'éolien, c'est que plus c'est haut et plus ça produit. Donc les éoliennes maintenant mesurent entre 200 et 230 mètres de haut. Donc c'est deux tiers de Tour Eiffel. Et bientôt, ça sera à la hauteur de la Tour Eiffel. Et donc, si en plus vous pouvez les mettre en hauteur, c'est-à-dire ici, comme ici, à presque 1500 mètres d'altitude, vous gagnez en régime des vents. Donc, ils ont tout intérêt à repérer les lignes de crête et pouvoir installer les éoliennes sur les lignes de crête. D'autant plus qu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un peu. On est la réserve d'Indiens, quoi. Hein. On a peu d'habitants au kilomètre carré, donc les élus estiment que bon, finalement, ça va pas gêner grand monde.
Là où elles seront positionnées, donc sur la montagne de l'Oreille, vous allez les entendre ici, par exemple à la Baume, on les entendrait, à la Haute-Baume.
On va les entendre.
Ça, c'est pas des élus, ça.
On va les entendre, on va les voir. Ça va clignoter jour et nuit.
Ça n'inquiète personne, ça, de se dire, ça fait quand même un sacré bruit.
Oui, mais vous savez, on est confronté quand même à un discours de ces opérateurs éoliens qui se sont bien organisés, qui se sont regroupés dans une structure qui s'appelle France Énergie Éolienne, et qui, à longueur de temps, disent « mais les éoliennes, c'est formidable, c'est pas dangereux, ça fait pas de bruit, c'est gratuit, c'est magnifique, etc. etc. » Donc, on est obligé, nous, presque sans moyens, à lutter sans arrêt contre cette doxa permanente qui est de dire « l'avenir, c'est l'éolien ». Et donc, plusieurs fois, il y a eu des rapports partout en Europe sur le bruit que font les éoliennes, les infrasons, les risques sanitaires sur la santé humaine et animale aussi, parce que vous avez parfois des troupeaux, notamment en Normandie, vous avez des troupeaux qui,
les vaches, oui.
À proximité d'éoliennes, il y a une mortalité importante ou une baisse de la production laitière. Mais tout ça, c'est balayé d'un revers de la main par les autorités, y compris les autorités sanitaires françaises. Et bon, ils n'en démordent pas. Voilà, c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Voilà, donc. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que même si nous, on est le pot de terre, on a un avantage énorme, c'est que le pot de fer, lui, il rouille. Voilà. Et les éoliennes, le drame, si vous voulez...
Rouilleront aussi, d'ailleurs.
Oui, rouilleront aussi, mais le drame, par exemple, sur un autre sujet, c'est que dans 15 ans, que vont faire les communes quand l'opérateur éolien, parce que lui, ça ne va plus l'intéresser dans 15 ans, il a... une obligation d'achat par l'État, un contrat de 15 à 20 ans, suivant la date des contrats quand ils ont été signés. Dans 15 ans ou dans 20 ans, ça n'intéresse pas de produire de l'éolien au tarif du marché. Le marché est en train de se casser la figure. lui préfère vendre 91 euros mégawattheure que de vendre actuellement. On est aux alentours d'une trentaine, on est en dessous des 40 euros. Donc, dans 15 ans, les éoliennes, elles seront fichues. Il va falloir les démanteler. Vous aurez 1500 tonnes de béton et d'acier dans la terre. Qu'est-ce qu'on va en faire ?
Alors, c'est le choix d'être riche, mais mal accompagné, quoi, pendant 15 ans.
Ce qui est dramatique, c'est que les élus locaux sont insensibles à ce problème-là. Voilà. Eux, ce qu'ils voient, c'est... Oui, mais vous vous rendez compte, quand même, ce que ça va nous rapporter chaque année, quand même. Et puis, on n'a rien à faire.
Mais pour en faire quoi ? Alors, voilà, c'était ma question finale. Pour faire quoi ? Pourquoi est-ce que la Haute-Baume devrait doubler son budget ? Pour faire quoi, du coup ?
Pour avoir un budget plus important, pouvoir verser des indemnités plus importantes aux maires, pouvoir...
On ne sait pas.
Enfin, nous, on se pose la même question que vous. On leur a posé déjà au conseil municipal. On dit, mais qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Nous, on trouverait plus intéressant, déjà, qu'il y ait des fusions de communes. Parce qu'une commune de 10 habitants avec un conseil municipal de 7 personnes, dont le maire et deux adjoints qui soient rémunérés, enfin indemnisés, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on n'a pas de moyens. On n'est même pas déneigé l'hiver. Voilà. Donc on essaye de leur dire, mais groupez-vous, essayez de réfléchir en commun sur un développement ici en local, à plusieurs communes, etc. Mais vous savez, le mandat de maire, qui est souvent tenu par des retraités, c'est un complément de retraite. Et ce complément de retraite, il était, je crois, de 600 euros par le passé. Et je crois que l'État, enfin, il y a un projet de loi pour porter ces indemnités maintenant à 900 euros pour les communes de moins de 100 habitants. Donc ça représente quand même quelque chose.
Tout est lié.
Nous, si vous voulez, on préférerait que nos élus se battent pour désenclaver le territoire, ne serait-ce qu'en termes d'économie numérique, parce que on a, je vous l'ai dit, du tourisme diffus. Moi, je me souviens à la Baume, c'est assez récurrent, où des gîtes ne peuvent pas passer leurs réservations parce qu'il n'y a pas d'Internet. Encore hier, dans Dauphiné Libéré, l'édition des Hautes-Alpes, vous avez le maire de Montbran qui dit « Mais moi, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'Internet. » Si on veut permettre à des entreprises qui sont actuellement dans des grandes villes, si on veut permettre à des gens de pouvoir venir ici travailler dans nos territoires, on les accueille volontiers, mais pour les accueillir, il faut des infrastructures. C'est ça qui est dramatique sur ce problème de l'éolien. Ça met quand même en exergue le gros problème de les habitants des villes contre les habitants des champs. Voilà. Ça vous a pas échappé qu'aux dernières municipales, dans les grandes villes, vous avez les candidatures écologistes qui ont remporté de vrais succès. C'est pas pour rien. Mais ce qui est difficile pour nous ici en zone rurale, c'est de se dire bon, finalement, votre développement économique, on s'en fout complètement. Le numérique, c'est pas pour vous. Le téléphone, vous le faites quand ça marche. Et puis, par contre, il faut produire de l'énergie parce que nous, en région parisienne, ou nous sur la Côte d'Azur, où nous, on en a besoin. Donc on met des éoliennes chez vous. Est-ce que c'est la finalité des territoires ruraux ? Je ne sais pas. Moi, je crains qu'un jour ou l'autre, les ruraux en auront un petit peu marre d'être considérés comme ça. Oui.
C'est une belle conclusion, ça, Jean-Philippe.
Ah, je ne sais pas.
Pour adhérer, vous soutenir au BH Nature, comment on fait ? Où est-ce qu'on vous trouve ? Vous avez Internet ?
Oui, alors moi j'ai Internet, donc je travaille entre 10h du soir et 2h du matin. Donc on a un blog qui s'appelle Obuèche Nature. Voilà. Donc il suffit de taper sur Google ou un autre moteur de recherche Obuèche Nature, vous arrivez sur notre blog et vous avez toutes les informations pour nous rejoindre ou au moins avoir des informations sur ce qui se passe dans nos tout petits territoires ruraux.
Jean-Philippe Salé, merci.
Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Hey, the bird.
L'interview du jour.